Je suis prêt. Voilà. Eh bien, je vous invite ce matin à cheminer avec 10 lépreux. Mais tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. C'est toujours une joie de vous retrouver. C'est parfois difficile de trouver une date, mais nous avons réussi. Voilà, souvent le 5e dimanche du mois, c'est celui où il y a peut-être un créneau. Alors, frères et sœurs, je vous invite à méditer dans l'évangile de Luc. Encore une histoire d'exaucement de prière, ça nous fait du bien. Luc au chapitre 17, les versets 11 à 19. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa à travers la Samarie et la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et élevèrent la voix pour lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Les voyant, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Or, pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint en rendant gloire à Dieu à pleine voix. Il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux personne pour revenir rendre gloire à Dieu ? Il n'y a que cet étranger. » Et il lui dit, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Sanctifie-nous par ta vérité, par ta sagesse. Amen. Eh bien, dans la suite de ce que nous avons déjà partagé un petit peu ce matin, voilà un récit évangélique qui devrait nous mettre à l'aise ce matin ici dans cette salle de culte, parce qu'il nous fait comprendre que nous avons bien fait de venir. Nous avons bien fait de venir au culte pour, comme ce lépreux, rendre gloire à Dieu à pleine voix. Et nous avons chanté de très beaux chants ce matin qui nous ont permis de rendre gloire à Dieu. Nous sommes réunis pour vivre ensemble l'attitude de reconnaissance du 10e lépreux. Quand j'étais enfant, encore des souvenirs de famille, décidément, hein, aujourd'hui, ma maman, donc la grand-mère de Toby, on reste vraiment en famille, hein, dans la tribu, ma maman m'apprenait à dire merci. Et je peux vous dire qu'elle était très attentive à cela. Il fallait toujours bien dire merci. Alors, croyez-vous que Luc et laisser cette histoire des 10 lépreux pour nous apprendre à dire merci à Dieu. C'est important d'exprimer au Seigneur notre reconnaissance. Mais dans ce texte, vous allez le voir, il y a bien plus qu'une leçon de politesse. Il y a un appel à vivre en Christ dans la joie du salut. Alors prenons le temps de faire quelques présentations. Jésus faisait route vers Jérusalem, nous dit le texte. Vers Jérusalem, ça doit faire tilt ça déjà dans notre esprit. Et il passa à travers la Samarie et la Galilée. Vous le voyez, Luc commence par un peu de géographie. Il précise que Jésus marche vers Jérusalem, donc vers le lieu où s'accomplira sa mission, là où il sera crucifié et où il ressuscitera. C'est un voyage difficile pour lui, parce qu'il sait très bien ce qu'il attend. Un voyage difficile, angoissant, lourd de menaces. Mais nous savons en entendant cela qu'il est en marche pour nous sauver. Très important de s'en rappeler. Pour sauver qui ? Bon. Non pas les justes, mais les pécheurs. Jésus le dit souvent. Et donc, Luc nous précise qu'il passe par la Galilée. La Galilée, une région touchée à l'époque par les influences païennes, ce n'est pas la pieuse Judée. C'est déjà une région un peu louche. Il passe aussi par la Samarie, où habitent des gens que les Juifs considéraient comme des hérétiques, des malcroyants, des gens qu'ils n'aimaient pas. Et c'est au milieu de ces diverses personnes mal considérées que le salut est en marche. Jésus est en marche pour les malades et les impurs. Et les lépreux, précisément, en sont l'expression la plus repoussante à l'époque. En ces régions mal sentantes, Jésus rencontre les plus pauvres, les plus rejetés, les plus impurs. Le lépreux doit crier, vous trouvez ça dans le livre du Lévitique, notamment au chapitre 13. Le lépreux doit crier « Impur, impur !» Il habite à part, il établit sa demeure hors du camp, nous dit le Lévitique. Son aspect répugnant, misérable, suffisait à le tenir à l'écart. Jésus rencontre ici des lépreux, obligés de rester en dehors du village, et qui, nous dit Luc, conformément à la loi, reste à distance. Ce n'est pas pour rien. Eh bien, nous aussi, avec ces lépreux, nous sommes porteurs de nos impuretés, de nos infirmités, de nos faiblesses, de nos fautes. Et nous venons, nous aussi, ce matin, implorer la miséricorde du Seigneur, avec leurs paroles. Jésus, Maître, Seigneur, aie pitié de nous. Quand les lépreux avaient la chance d'être guéris, leur guérison devait être constatée par les autorités religieuses pour qu'ils puissent être réintégrés dans la société. Un examen avec un rituel était prévu par la loi de Moïse pour constater la purification du lépreux et exprimer son absolution. Vous trouvez cela au chapitre 14 du Lévitique. On voit que pour Jésus, il est important que ces pauvres gens puissent bénéficier de cette reconnaissance publique et puissent reprendre donc une vie normale. Voilà. Nous observons donc dans ce récit, comme dans bien d'autres de l'évangile de Luc, que Jésus prend soin des plus pauvres. Il se soucie de leur guérison, il se soucie de leur bien-être, il se soucie même de leur place dans la société. Nous recevons donc un appel de sa part à suivre son chemin de sollicitude et de compassion pour les plus démunis. Et si nous faisons partie des plus démunis, de ceux qui traversent actuellement une épreuve difficile, pénible, eh bien accueillons par ce récit l'assurance de son regard d'amour et son appel à placer en lui notre confiance et notre espérance, comme Tobie dans les quartiers malfamés de Paris. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Cependant, la marche de Jésus vers Jérusalem nous fait aussi comprendre qu'il a, pour ses lépreux, et donc aussi pour nous, un projet plus grand que la guérison, un projet plus grand que la purification ou que la vie sociale. Il a la volonté de nous sauver. Tout à l'heure, nous avions le récit de Salomon, de la prière de Salomon à Gabaon, curieux récit de prière. Eh bien, nous sommes ici en présence d'un curieux miracle de guérison. Assez étrange, il faut le dire. Contrairement à d'autres épisodes, même dans l'évangile de Luc, ici, Jésus ne touche pas les lépreux, à aucun moment. Il ne leur dit même pas qu'ils seront guéris, même pas. Il leur donne juste un conseil, allez vous montrer au prêtre. C'est tout. Et ce qui est même étrange, c'est que les lépreux obéissent. les lépreux s'en vont, ils partent à Jérusalem. On peut quand même les imaginer un peu déçus. Un peu comme jadis, je pense que vous connaissez cet épisode, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5, l'épisode du général araméen Naaman, lépreux lui aussi, auquel le prophète Élisée avait simplement recommandé de se laver 7 fois dans le Jourdain pour être purifié de sa lèpre. La Bible nous dit que Naaman s'irrita et partit en disant « Oh, quand même, hein, je me disais, il va sûrement sortir de chez lui et debout, il invoquera le nom du Seigneur son Dieu, passera la main sur l'endroit malade et délivrera le lépreux. » 2 Rois 5:11. Très probablement, les 10 lépreux de notre histoire, de notre évangile, s'attendaient à un geste de ce genre. Pourquoi, après tout, prendre la peine d'aller consulter les prêtres de Jérusalem s'il n'y a pour l'instant aucune guérison à constater? Ils partent pourtant. Vous savez, Jésus avait une certaine autorité dans sa parole. Hein. Ils partent donc. Luc nous dit, pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. Retenons une première leçon de cela. Frères et sœurs, l'obéissance et la confiance placées dans les paroles de Jésus font déjà entrer dans un processus de guérison par la relation retrouvée avec Dieu. Ici, en obéissant à Jésus, les lépreux renouent avec leur attachement à l'Éternel, au Dieu d'Israël, puisque Jésus leur demande d'accomplir pour eux-mêmes ce qui est prescrit par la loi. Rappelons-nous cette vérité. Quand nous prions, comme Salomon, quand nous implorons avec insistance l'aide de Dieu, rappelons-nous que l'exaucement réside souvent dans ce qu'il nous a déjà donné. La simple obéissance à sa parole, vous savez, pourrait guérir pas mal de maux déjà qui empoisonnent notre existence. Le Créateur a bien fait toute chose. C'est déjà un premier point. Ensuite, sa parole, encore aujourd'hui, nous montre le chemin de la vraie vie. Écoutons-la. Et beaucoup de choses seront guéries. L'angoisse, par exemple, quand on est dans les quartiers malfamés de Paris, l'angoisse trouve son remède dans la confiance en Dieu. Les conflits peuvent se résoudre dans un pardon inconditionnel, comme Jésus nous l'enseigne. Les violences et les guerres diminueront quand les disciples de Jésus mettront en pratique la non-résistance évangélique et l'amour des ennemis. La pauvreté et l'injustice disparaîtront quand nous aurons clairement choisi entre Dieu et l'argent et quand nous vivrons le partage des premiers chrétiens. Les paroles de Jésus sur le pardon et le renoncement à soi-même réconcilieraient bien des couples. Nous pourrions multiplier les exemples. En obéissant à Jésus, les lépreux ont trouvé la guérison. Reconnaissons quand même que dans leur cas, cette guérison est effectivement un miracle, un phénomène inattendu, extraordinaire. Le Seigneur a daigné répondre directement à leur prière. Jésus, vous avez retenu comment ils appellent Jésus ? Maître, maître, rabbi. Jésus, maître, est pitié de nous. Le miracle manifeste que Jésus est bien celui qu'ils ont invoqué. Oui, il est le maître. Il est le Seigneur. Il est le maître. Il détient la maîtrise, la seigneurie sur toute chose. Il a la puissance de guérir. Et cette puissance est la révélation de la gloire de Dieu. Mais ce maître est aussi celui qui prend pitié. Pitié. Dans ce miracle s'exprime la miséricorde du Seigneur. son souci des plus malheureux. Ce récit nous apprend que en Jésus, c'est Dieu lui-même qui tourne son regard vers les plus misérables. C'est Dieu qui s'approche aussi de nous. C'est Dieu qui se rend présent à nos difficultés. Encore faut-il reconnaître cette présence. Le miracle n'y change rien. Vous savez, on pourrait toujours lui trouver une explication rationnelle. Surtout dans ce récit. Après tout, les 10 lépreux n'ont pas été guéris en présence de Jésus. C'est peut-être la marche qui leur a fait du bien. Toujours trouver des idées, hein? Non. Pour reconnaître l'œuvre de Dieu, que ce soit dans un miracle ou dans les événements les plus ordinaires de l'existence, il faut la foi. La foi. C'est elle, cette foi, qui est un don du Seigneur, qui ouvre les yeux du cœur et de l'intelligence à la lumière de Dieu. Jésus a offert aux 10 lépreux l'occasion de découvrir que leur guérison ne venait pas seulement du conseil d'un rabbin, aussi grand soit-il, mais leur guérison venait du Sauveur du monde. Et là, nous voyons dans ce récit qu'un seul lépreux s'est ouvert à cette réalité. Un seul lépreux s'est ouvert à la grâce. Pour évoquer la démarche de ce 10e lépreux, le récit de Luc est précis, soigné, très soigné dans sa rédaction. Luc utilise, comme on dit en musique, hein, un crescendo, une augmentation, un accroissement dans l'expression, dans l'adoration. C'est comme si Luc voulait, à travers le lépreux samaritain, décrire la découverte émerveillée du Seigneur Jésus qui se produit en chaque croyant. Tout un chemin de conversion est placé devant nos yeux. Après tout, ne sommes-nous pas tous des lépreux samaritains, des impurs, des perdus, indignes de Dieu, mais qui ont reçu le salut dont ils avaient besoin, peut-être même au moment le plus inattendu. Alors les yeux du lépreux s'ouvrent. Les yeux du lépreux s'ouvrent sur son état. Il était malade ? Et il est guéri. Il était impur et il est purifié. Il était exclu et il est rétabli. Il était loin de l'Éternel et il retrouve l'alliance de son Dieu. De plus, n'étant pas juif, Luc nous dit bien qu'il était samaritain, il peut considérer sa guérison comme une pure grâce de Dieu, complètement imméritée, un don totalement gratuit. Ensuite, Luc écrit qu'il revint. Il revint. Il fait demi-tour. Le verbe hébreu à l'origine du mot utilisé par Luc se rencontre souvent dans l'Ancien Testament pour évoquer la conversion, le retour à Dieu. Littéralement donc, et on peut être certain que Luc a bien choisi ces termes, le lépreux se convertit. Il change radicalement de direction pour aller où ? Vers Jésus. Plus rien d'autre ne l'intéresse que de retrouver Jésus. Rien d'autre, même plus le temple de Jérusalem, même plus la reprise de son travail et de sa vie de famille, pourtant rendue possible désormais par sa guérison. Le lépreux revient vers Jésus parce qu'il a découvert en l'homme de Nazareth la manifestation du Dieu vivant. Ça, la foi. La manifestation du Dieu vivant en Jésus. Il revint donc, nous dit Luc, en rendant gloire à Dieu à pleine voix. Je ne peux pas vous citer le texte original, ça vous ennuierait, mais faites-moi confiance, selon la rédaction de Luc, les termes qu'il emploie, la louange ici est devenue, est marquée de manière beaucoup plus forte que la supplication du début. Il loue plus fortement Jésus, Dieu, à travers ce que Jésus a fait, qu'il ne suppliait auparavant Jésus. Son intercession et l'intercession de ses compagnons de misère, lépreux, exprimaient leur détresse. La louange du Samaritain est autre chose. C'est l'expression de la vie nouvelle. C'est l'expression de la joie en Dieu. Et c'est sur cette nouveauté que Jésus met l'accent quand il constate ce qui se passe. Il n'y a que cet étranger pour revenir rendre gloire à Dieu. Vous le voyez, ce lépreux n'est pas exemplaire pour sa politesse. Il est exemplaire pour sa louange. C'est pas la même chose. C'est bien plus fort. Il connaît par la foi en Jésus la joie dont le Seigneur dit qu'elle est parfaite et que nul ne nous la ravira. D'une certaine manière, si on prend le vocabulaire de l'évangile de Jean, le Samaritain guéri est entré dans la vie éternelle. Pourtant, un juif qui assisterait à la scène trouverait que ce lépreux a une étrange manière, et même une scandaleuse manière, de rendre gloire à Dieu. Il pourrait penser que ce Samaritain aurait mieux fait de poursuivre son chemin avec ses compagnons et d'aller trouver les prêtres du temple de Jérusalem. En effet, l'homme guéri, nous dit Luc, se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Il prend la posture de l'adoration devant Jésus, devant un homme aux yeux des observateurs. Scandale. Il rend à Jésus l'honneur qui est réservé à Dieu. Le lépreux a effectivement compris que Jésus n'est pas seulement un maître, un rabbin, un conducteur spirituel. Jésus est le Fils de Dieu. Il confesse ouvertement sa foi. Pour lui, avec Jésus qui l'a guéri, c'est Dieu lui-même qui s'est rendu présent. Dieu lui-même qui s'est rendu présent pour le sauver. On a beaucoup parlé de la prière ce matin. Eh bien, continuons dans cette belle lancée en constatant que la prière chrétienne s'exprime dans les attitudes de ce lépreux. Et là encore, Luc a bien soigné sa rédaction. On trouve dans ce récit l'intercession. Nous avons eu un temps d'intercession ce matin. On trouve dans ce récit l'intercession. Jésus, aie pitié de nous. On trouve aussi la louange. Il rendit gloire à Dieu. Dorothea nous a conduits dans la louange. On trouve l'adoration. Il se jeta le visage contre terre. Et on trouve l'action de grâce, verset 16, en lui rendant grâce. Je ne résiste pas à vous le dire en grec, parce que ça va sonner un petit peu à vos oreilles. Eucharistone auto, c'est-à-dire, il fit devant lui Eucharistie. Eucharisto, ça veut dire « je te dis merci hein, » en grec. Vous constatez que cette dernière expression, pour parler de l'action de grâce du lépreux, évoque littéralement l'Eucharistie. Et il n'est pas impossible que ce soit une allusion de Luc à la scène, au repas du Seigneur. En la célébrant chaque dimanche, nous entrons à notre tour dans la même attitude de reconnaissance pour notre salut pleinement reçu en Jésus. Nous disons au Seigneur, Eucharisto, merci, tout simplement. Jésus constate et se réjouit de ce second miracle, car c'est bien d'un second miracle qu'il s'agit, le lépreux samaritain n'est pas seulement guéri, il est sauvé. Un miracle qui a eu lieu dans nos vies également. Il est sauvé. Et voici ce que Jésus lui dit. Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alors là, on pourrait traduire aussi de la manière suivante, littéralement, ressuscite et va. C'est exactement le même verbe que celui qui est employé pour désigner la résurrection de Jésus et la nôtre. Ressuscite et va. La foi du lépreux, voyez, ne l'a pas seulement réintroduit dans une existence normale. Luc le fait exprès, évidemment. Il voit plus loin et il nous le fait bien comprendre à travers les paroles de Jésus. En se tournant vers Christ, le Samaritain est entré dans la résurrection. On comprend alors pourquoi il était si important que Jésus guérisse ses lépreux. Ce n'était pas seulement par pitié. Sinon, pourquoi ne guérirait-il pas tous les lépreux et même tous les malades? Ce n'était pas seulement pour manifester sa puissance. D'ailleurs, Jésus n'aime pas trop faire le malin et manifester sa puissance. Ce récit est une annonce en direct de l'Évangile. Il proclame le salut en Jésus-Christ et ses effets sur notre vie. Il rejoint les situations qui sont les nôtres et décrit comment elles sont transformées par la rencontre du Seigneur. Nous ne serons pas tous guéris de nos maladies physiques par un miracle, nous le savons bien. Même dans les évangiles d'ailleurs, les miracles de guérison gardent un caractère exceptionnel. C'est d'ailleurs ce qui fait leur force. Et puis de toute façon, une guérison, aussi agréable soit-elle, ne change pas complètement l'existence. Le Samaritain guéri retombera certainement malade un jour et connaîtra de toute façon l'affaiblissement qui conduit à la mort. Par contre, frères et sœurs, nous sommes tous destinés à être radicalement transformés par la rencontre du Seigneur. Cela, c'est pour chacun de nous. Nous sommes tous destinés à être radicalement transformés par la rencontre du Seigneur. Souvenez-vous la direction de la marche de Jésus. Il allait à Jérusalem. Et ce que Jésus partait accomplir à Jérusalem, quand il a croisé ses lépreux, eh bien, il l'a fait pour nous tous. Il a pris sur lui nos lèpres, nos impuretés, nos ingratitudes, nos péchés, pour nous les pardonner, pour nous purifié précisément de toute iniquité. Sur la croix, il s'est chargé de nos souffrances, et même plus encore, il s'est chargé de nos morts pour nous en délivrer. Et pour nous en délivrer cette fois-ci, définitivement. Définitivement. Et parce que Jésus est ressuscité, il nous est possible à notre tour, aujourd'hui même, de le rencontrer. Il croise maintenant nos chemins de vie pour prendre pitié de nous et pour nous donner part à sa victoire. Par la foi, nous le reconnaissons à notre tour et nous allons à lui. Nous trouvons en lui notre joie. Quand l'apôtre Paul écrit, par exemple, il l'écrit souvent, mais par exemple en Colossiens 3:15, « Vivez dans la reconnaissance », le même mot, hein, qui a donné Eucharistie, la même racine. Vivez dans la reconnaissance. Il résume le message de ce récit de l'Évangile. Rendre grâce, être reconnaissant, dire merci à Dieu, ce n'est pas seulement de la politesse. Luc parle aussi de rendre gloire ici. Ces expressions expriment, en fait, la vie nouvelle en Christ. la vie nouvelle en Christ. Ce ne sont pas des mots savants, ce sont des attitudes qui manifestent la joie d'une existence entièrement donnée à Jésus. Et c'est possible parce qu'elle a déjà tout reçu de lui. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint, en rendant gloire à Dieu à pleine voix. Il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Alors vivons, frères et sœurs, dans cette joie que Jésus fait abonder dans notre vie. Amen.
Amen.
Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, à notre tour, nous sommes venus à ta rencontre. Nous avons fait un demi-tour, ou en tout cas un détour, dans notre chemin de vie, pour venir à tes pieds, pour venir t'adorer, te rendre grâce, parce que par la foi, tu nous as permis de découvrir que tu es notre Sauveur, que tu es celui qui nous guérit et qui nous conduit à la vie éternelle. Seigneur, que ta parole aujourd'hui renouvelle notre confiance, renouvelle notre conversion, renouvelle l'élan de notre vie pour que nous nous tournions vers toi, exclusivement vers toi, pour trouver en toi la paix, la joie, l'espérance. Nous en avons besoin, Seigneur. Tu connais les impuretés, les faiblesses de nos vies. Mais Seigneur, tu nous attends. Tu nous attends et tu nous dis à chacun d'entre nous, ressuscite, marche dans la résurrection et va. Tu nous dis, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.
Amen. Amen.